BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Clémence de Rothiacop qui nous rejoint, gérante chez Richelieu. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Guillaume.
Et alors Antoine, juste toujours intéressant parce que les banques d'affaires américaines adorent parler des marchés, des scénarios de marché, mais il se trouve qu'elles adorent aussi faire des prévisions, des probabilités sur plein de trucs dont le foot. Elles aiment bien scénariser les Coupes du Monde, notamment. On est en plein mondial, là.
Oui, il y avait des moyennes de banques d'affaires qui avaient été faites sur les probables vainqueurs de la Coupe du Monde. Et puis, il faut bien qu'ils concurrencent un petit peu Polymarket, hein, qui est en train de remettre en cause leur statut de prévisionniste numéro un du côté de Wall Street. Non, c'est Goldman Sachs qui a remis à jour ses prévisions concernant les vainqueurs potentiels de la Coupe du Monde de foot. Goldman donnait l'Espagne gagnante. Hein. Elle reste gagnante, mais a priori, derrière, c'est l'Argentine et la France tombent troisième. En fonction de ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs. Et les autres vainqueurs potentiels sont très, très en dessous. Mais le trio de tête, ce serait France-Argentine. Ce serait Espagne-Argentine-France.
Voilà, Clémence.
Merci de me faire grâce, de me demander mon avis sur le foot.
Nouvelle prévision de Goldman Sachs sur ce mondial de foot. Ben oui, je sais que vous les suivez aussi, hein, ce mondial dans les salles de marché, etc. Bon, on est aussi à l'affût un petit peu. Bon, Clémence, le CAC 40 ce soir termine à moins 0,7%. Beaucoup de questions d'auditeurs encore sur le titre de CRSI ce soir. Alors, on va continuer d'en parler. Grizzly Research qui accuse de CRSI de trafiquer son chiffre d'affaires. De CRSI a répondu ce week-end. Il y a le titre reculé encore. Là, il rebondit, là. Plus 26% ce soir de CRSI. Est-ce que c'est la fin des doutes ou c'est toujours le doute?
Non. Malheureusement, le groupe a notre sens. On a pour très longtemps, avant de retrouver vraiment une crédibilité et une légitimité auprès des investisseurs. Parce que dès l'instant où, même si effectivement, les pratiques de ces fonds vautours sont vraiment à remettre en cause, parce qu'ils vendent à découvert, on sait, c'est limite de la manipulation de marché. Néanmoins, à un moment, le groupe s'est défendu, expliquant qu'il y a des sites industriels qui peuvent montrer les partenariats, qu'il y a des audits qui ont été faits. À notre sens, il faudrait qu'ils prennent un auditeur indépendant pour vraiment que le marché soit rassuré sur certaines choses. On va devoir attendre au moins la publication début 2027 pour voir la transposition en chiffre d'affaires de leurs gros contrats aux États-Unis. C'est tout ça qui est remis en cause par ce fonds vautour. Pour nous, ça reste un investissement compliqué. Il y a une prime de risque qui va être très forte. Il y a une visibilité du coup qui est plus assuré, puisque quid de la crédibilité de ce qui a été annoncé. C'est difficile quand quelqu'un met en avant des incohérences géographiques, remet en avant le principe même de certaines activités, de certains contrats. Pour nous, c'est un gros point d'interrogation, donc c'est difficile d'aller sur ce genre de dossier.
La façon dont a communiqué la direction, les détails ou l'absence de détails, enfin, comment vous regardez justement la riposte de la direction depuis?
Ils ont répondu plutôt point par point, donc elle est plutôt méthodique. Néanmoins, il va falloir davantage de détails, puisque en face vous avez aussi un rapport qui était détaillé. Et puis c'est facile d'appuyer aussi sur un groupe qui avait tellement bien performé en bourse, qui évidemment il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà intégrées dans le cours de bourse et qui n'étaient pas encore effectives dans les comptes. Donc ça reste pour nous un dossier difficile. Le CEO a dit qu'il allait renforcer sa position au capital, qu'il allait racheter des titres. Ce sera un bon signal à donner au marché, mais il en faudra davantage à notre sens. Il faudra vraiment des publications qui rassurent et montrer patte blanche davantage que ce que nous avons aujourd'hui.
Et donc un auditeur indépendant, vous dites,
ce serait une bonne idée, bon. Ça pourrait rassurer.
De CRSI ce soir récupère 26%, mais bon, est très loin de rattraper ses pertes accumulées depuis la fin de semaine dernière, bien sûr. Les autres valeurs qu'on suit, Sanofi annonce le feu vert à la commercialisation de deux de ses traitements, notamment contre la sclérose en plaques. Sanofi gagne ce soir du terrain alors que le marché recule. Sanofi est en hausse, plus 1,3%.
Oui, alors il bénéficie aussi de la bonne tenue des secteurs défensifs aujourd'hui, hein, dans un marché où les cycliques et la tech baissent beaucoup. Oui. C'est une bonne nouvelle pour Sanofi. Ça va rester, cette indication-là de la sclérose en plaques va rester plutôt sur une niche de marché. On a en tête qu'il y aura quand même des produits concurrents de la part de Roche qui arrivent, de la part de Novartis aussi, à moyen terme. Le gros enjeu de Sanofi aujourd'hui, c'est il y a une nouvelle CEO, il y a une nouvelle femme forte à la tête du groupe depuis avril, c'est de mettre en place place une stratégie pour gérer l'après du Pixen, qui est le gros blockbuster du groupe. 40% de son chiffre d'affaires, c'est, ça traite la dermatite atopique, donc c'est 40% de la partie respiratoire et derma. Et ça, on sait qu'il y a le gros, un des brevets importants aux États-Unis qui va tomber à partir de 2031. Donc c'est important de voir quelle sera la stratégie. On parle beaucoup de futures acquisitions. Le groupe pourrait avoir 10 à 20 milliards d'euros à allouer à la croissance externe, ce qui serait bienvenu. Et puis après, il y a 20% exposé au vaccin qui se tient bien. Il y a potentiellement des bonnes nouvelles à attendre à court terme sur cette division-là. Et la division aussi, 20% du chiffre d'affaires, c'est la division maladies rares qui l'a. Et pour nous, c'est de la croissance visible et assez défensive. Donc ça, c'est une partie intéressante. Mais cette décote de valorisation de Sanofi se justifie aussi parce qu'on est vraiment à un tournant dans la stratégie et il va falloir remplacer ce gros blockbuster qui va tomber dans le domaine public dans quelques années.
Et on n'est pas encore convaincu qu'ils y parviennent complètement efficacement.
Non, il y a des recours juridiques, la stratégie n'est pas encore complètement claire, mais il y a quand même une dizaine d'années devant nous.
On est sur un secteur qui, d'après beaucoup d'experts, sera l'un des principaux bénéficiaires de l'IA, qui va, le secteur de la santé, être parmi les plus révolutionnés par l'IA. Et pourtant, au-delà de Sanofi, hein, c'est un secteur qui reste relativement en retard. Comment cette décote globale, vous parvenez à l'expliquer ?
C'est un secteur qui est à la fois en retard et qui finalement, en termes de valorisation, alors Sanofi mis à part, mais il y a des titres qui se payent assez cher. On a eu des très belles réussites, dont je pense notamment à UCB, qui a été une formidable réussite boursière de ces dernières années, ou un Galderma, etc. Donc il y a quand même des groupes qui sont positionnés sur des produits où on a une croissance importante. Mais c'est vrai que le secteur, ces dernières années, a un peu moins d'affection des investisseurs, mais pour nous ça reste du fonds de portefeuille intéressant à avoir.
C'est le problème, c'est qu'on est dans l'un de ces secteurs de fonds de portefeuille défensif, vous le disiez, alors que ce sera peut-être amené à devenir un vrai secteur de croissance avec l'IA. Pour l'instant, ce secteur n'a pas fait sa mue en matière de statut.
Il y a certains groupes de croissance à l'intérieur, ça c'est certain.
Bon, ce soir, ce secteur, en tout cas défensif, effectivement profite de l'état d'esprit des marchés. Un CAC 40 en baisse, les valeurs défensives du coup ont émergé, ont surperformé. Dans la santé, il y a aussi Eurofins qui termine plus forte du CAC à plus 2,8%. Airbus, autre valeur défensive, gagne 2%. Pernod Ricard aussi, valeur défensive, gagne 1,6%. Heineken, tiens, on parlait du mondial de foot il y a quelques minutes avec Antoine. C'est la valse des patrons. Alors chez Heineken, ça y est, ils ont nommé leur nouveau patron, Rafael Oliveira, va prendre le poste de PDG. Voilà.
Oui, d'origine brésilienne, aucune expérience dans les boissons alcoolisées, néanmoins forte expérience dans les produits de des biens de très grande consommation. Il était avant chez JDE Peet's, qui s'est fait racheter par l'américain Dr Pepper. Et là, il avait mené vraiment une restructuration profonde, une simplification. Il avait vraiment coupé les coûts, c'était important. Ça, ce sera intéressant parce que finalement, quand on regarde Heineken, on n'est toujours pas revenu aux marges d'avant pandémie, d'avant 2020. Donc il y a quand même des choses à faire. Certainement. Ce qui est intéressant aussi, si on regarde tout son historique, c'est aussi une forte expertise dans les marchés émergents. 60% du chiffre d'affaires d'Heineken est dans les pays émergents. Ce monsieur était chez Kraft Heinz avant s'occupait notamment de ces marchés-là. Donc c'est une expertise très intéressante. Et puis ce choix-là montre que le conseil d'administration a envie d'un regard neuf sur ce secteur-là. Et le groupe peut-être peut se diversifier aussi dans tout ce qui est non-alcoolique.
Voilà.
Ce que fait aussi un Unibrew, par exemple, en rachetant Britvic, se développe davantage dans la partie boisson non-alcoolisée. Une diversification qui peut être intéressante, lisser la cyclicité et puis la concurrence qu'on peut avoir chez les brasseurs.
Wall Street, on suit SpaceX qui est passé tout à l'heure. On vous en parlait dans USA Today avec John Plassard. Le titre est passé tout à l'heure sous son premier cours de cotation, figurez-vous. Oui, pas le prix d'introduction, mais on est passé sous le premier cours de cotation qui était à l'époque, le 12 juin dernier, ça paraît lointain, à $150. On est passé sous les 150 tout à l'heure sur SpaceX. On en parlait aussi avec John Plassard, séquence à retrouver sur l'application BFM Business dans USA Today. Oui, quatrième baisse d'affilée pour SpaceX qui, alors tout à l'heure reculé, puis depuis un mouvement de rebond là. Et le titre, à l'instant, regagne 3%. Dernière question sur Pierre et Vacances, qui pourrait devenir un groupe émirati. On a appris hier qu'un fonds d'Abu Dhabi comptait racheter Pierre et Vacances. Il propose 1,90€ par action, ce qui semble pas forcément énorme d'ailleurs.
Ouais, 2 euros maximum, parce qu'il y aura un dividende exceptionnel potentiellement. Effectivement, quand on regarde le loin en arrière, le parcours boursier a été laborieux. Hein, le titre valait 30 en 2007, il est descendu à 0,81 en 2022. 2022, c'est l'année de la énorme restructuration du groupe. Des créanciers sont rentrés pour aider. Le groupe était en difficulté. Effectivement, ça fait seulement une prime de 13% par rapport au cours de clôture. Mais si on regarde quand même, ça fait une prime de 35% par rapport au point bas aussi de 2022. Donc, c'est, à notre sens, il faut qu'ils aient 80% en fait pour que l'offre, l'OPA passe. Il y a déjà une majorité des actionnaires, plus de 50%, il y a 3 actionnaires de référence qui ont dit qu'ils apportaient à l'offre, qu'ils étaient favorables à cette offre-là. Unanimité du conseil d'administration également. Et on sait qu'il y a à peu près 24% chez les créanciers qui ont tout intérêt à trouver une fenêtre de sortie. Donc les créanciers, à notre sens, devraient apporter à cette offre puisqu'ils n'ont pas vocation à être actionnaires à long terme. Ce sont des financiers. Donc à notre sens, les 80% vont être faciles à atteindre. Après, les 90%, donc, pour permettre un retrait de la bourse, c'est encore une autre question. Néanmoins, on peut comprendre, on n'est pas actionnaire, mais on peut comprendre la frustration de certains minoritaires en se disant il y a quand même du potentiel, il y a une énorme restructuration qui a été faite. Là, on voit d'ailleurs, le management a annoncé plutôt des bonnes réservations à venir. Alors, il y a quand même une fenêtre de visibilité qui est assez court terme, mais comment savoir quand même les réservations pour cet été, plutôt positives. Donc, c'est vrai que c'est toujours frustrant pour les minoritaires, les minoritaires qu'on peut être, d'avoir une sortie de bourse sur
ces niveaux-là. Voilà, la prime aurait pu être un peu plus importante.
C'est ça.
Vers une accélération sans doute aussi de la montée en gamme de Pierre et Vacances avec cet actionnaire d'Abu Dhabi.
Oui, certainement. Oui.
Merci Clémence de nous avoir accompagné. Clémence de Rothiakov pour Richelieu. On salue André Twenny qui nous accompagnait depuis Saxo.